Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver avec Thomas de Saint-Léger pour un Mondial Sport copieux avec pas moins de deux finales de Ligue des Champions au menu. Tottenham-Liverpool, c'est tout chaud. Sixième sacre pour les Reds, vainqueur de Tottenham 2-0. Grand moment de gloire après l'échec l'an passé en Première Ligue cette année. La patience récompensée d'un désormais ex-chat noir des finales, l'entraîneur Jürgen Klopp. Philippe Auclair sera avec nous dans un instant. Le contraire d'une finale réussie, c'est celle de la Ligue des Champions africaine. Le match retour entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca a tourné court, un hors-jeu non sifflé, l'arbitrage vidéo en panne et les Tunisiens finalement sacrés après une heure et demie de confusion totale. J-6 après l'ouverture de la Coupe du Monde féminine. Comment va l'équipe de France à l'issue de ces matchs de préparation? Sportivement, plutôt bien. Physiquement, ça grince un peu. Trois joueuses majeures absentes hier contre la Chine pour divers pépins. Simple précaution ou réel souci à se faire? Éric Chorin nous en parlera. Roland Garros avec un tableau féminin plus ouvert que jamais depuis l'élimination cet après-midi de la numéro 1 mondiale, la japonaise Naomi Osaka, et de Serena Williams. Son homologue masculin Novak Djokovic arrive en huitième de finale sans encombre, tout comme Gaël Monfils. Enfin, à l'occasion du départ du Tour du Cameroun, gros plan sur le cycliste qui remet son titre en jeu, le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana. La capitale du football européen s'est donc déplacée pour un an vers les bords de la Mersey plutôt que vers les rives de la Tamise. 13 ans après son dernier sacre héroïque face au Milan AC, 14 ans plutôt, Liverpool a décroché sa sixième finale de Ligue des Champions à Madrid et un an après l'avoir perdu, clin de l'histoire, face au Real Madrid. Les nouveaux joyeux de la couronne l'ont emporté 2-0 sur Tottenham dans ce second derby anglais délocalisé de la semaine. Notre correspondant outre-Manche, Philippe Auclair, est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, j'ai entendu les joyeux de la couronne, ça m'a beaucoup fait rire.
Eh bien écoutez, c'était le but. Résultat logique, vu la rencontre un peu moins joyeuse quand même, hein, cette finale, pas la plus excitante des finales de ces dernières années, avec un but ultra rapide de Mohamed Salah sur penalty qui a vite, peut-être un peu trop vite, lancé les Reds sur le chemin du succès.
Écoutez, une finale, je pense qu'au niveau de la qualité du jeu, ne restera certainement pas dans les annales. C'est souvent le cas lorsqu'on a des finales qui opposent deux adversaires qui viennent d'un même championnat. Mais là, on a senti également le fait qu'on avait deux équipes qui n'avaient pas joué depuis trois semaines, qu'on avait, comme Jürgen Klopp d'ailleurs l'a dit après la victoire, deux équipes qui étaient au bout du rouleau physiquement. Et on assistait à un match qui, bon, techniquement, n'était pas à la hauteur de ce qu'on avait vu de la part de ces équipes, d'ailleurs, lors des tours précédents. Mais et une équipe de Liverpool qui a sans doute livré son plus mauvais match, je dirais, de cette saison de Ligue des Champions, mis à part la défaite à Belgrade, mais qui sort avec cette victoire, qui met fin à la pseudo-malédiction de Jürgen Klopp, d'une part, puisqu'il avait perdu quand même pas mal de finales les unes après les autres, qui permet à Liverpool de se placer au troisième rang des équipes européennes pour le nombre de titres de champion d'Europe, derrière le Real Madrid et Milan, mais devant Barcelone et le Bayern, avec six victoires. Et un match qui n'aura pas tenu toutes ses promesses au niveau du football, mais qui en tout cas a délivré un champion, je pense, auquel on ne peut rien reprocher. Après la saison qu'a faite Liverpool en championnat d'Angleterre comme en Europe, s'il avait terminé sans le moindre trophée, il y aurait peut-être eu une certaine injustice, et il n'y a pas véritablement non plus d'injustice dans le verdict de ce match où Liverpool n'a pas brillé du tout, c'est moins qu'on puisse dire, mais où Tottenham a été incapable de concrétiser sa domination dans le jeu, dans les 30 mètres adverses.
Oui, il y a eu trop d'échecs techniques quand même de la part de Tottenham. Beaucoup. Il y a eu trop de mauvais choix vraiment pour inquiéter Liverpool, même si ça s'est quand même amélioré en seconde période.
Oui, en effet, et en particulier dans les 30 dernières minutes, mais énormément de déchets. Encore une fois, on peut se poser la question de savoir si le fait de terminer la saison de championnat anglaise aussi tôt, puisqu'on l'avait terminé le 12 mai, c'est quelque chose qui peut en quelque sorte nuire au club anglais en Europe à l'avenir, je dirais. Hein. Mais on a senti vraiment qu'il y avait eu un hiatus dans leur saison, que c'était presque en fait pour les joueurs comme un match de pré-saison. C'est bizarre de dire une chose pareille, hein, puisqu'on arrive bien évidemment au bout de ce marathon, mais on a eu le sentiment que de joueurs qui tout simplement n'avaient pas le rythme du match dans les pieds, que ce soit ceux de Liverpool, ceux de Tottenham, mais ceux de Liverpool encore plus, parce que Je regardais à un moment une statistique absolument hallucinante qui était le fait que le pourcentage de passes réussies du côté de Liverpool était inférieur à 70%.
Oui, donc ça fait pas forcément
énorme. C'est catastrophique. C'est catastrophique.
Une autre statistique qu'on va rappeler quand même et qui est assez importante pour l'histoire de Liverpool, c'est que le but de Mohamed Salah est le deuxième but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions après celui c'est historique d'ailleurs contre Liverpool. C'était Paolo Maldini précisément en 2005 face au Milan. On sait qu'il avait marqué de cette façon. Juste un dernier mot rapide. Vous parliez tout à l'heure de Jurgen Klopp. Alors c'est peut-être effectivement une pseudo malédiction, mais ça fait quand même du bien pour lui parce que il avait jamais vraiment gagné de finale européenne. Il avait échoué déjà en C1 et puis également en Ligue Europa.
Il avait échoué en Ligue Europa avec Liverpool. Il avait échoué en C1 avec le Borussia Dortmund contre Bayern Munich. Et ça va en effet peut-être arrêter ce narratif, ce discours qui fait que on parlait de Jurgen Klopp comme d'un grand entraîneur qui, lorsqu'il fallait gagner au plus haut niveau européen, n'était pas là. Ben là, c'est fini, on n'en parlera plus. Il a gagné en plus de ça de la manière dont une manière non kloppienne en quelque sorte, en déjouant, mais en trouvant malgré tout les ressources pour l'emporter, comme ils l'ont fait, comme ils ont failli le faire en championnat d'Angleterre, et là comme ils l'ont fait en Coupe d'Europe. Oui, bah qu'est-ce que vous voulez, c'est un grand entraîneur contemporain qui est récompensé, c'est un magnifique parcours avec Liverpool qui est récompensé, c'est un choix qui est récompensé pour les propriétaires de Liverpool qui avaient été le chercher à Dortmund, qui ont trouvé un entraîneur qui est en parfaite adéquation avec son équipe, avec son public et avec sa ville. Et au bout du compte, bah, voilà ce que ça donne. Une 6e Coupe d'Europe pour cette ville de Liverpool.
Merci beaucoup, Philippe Auclair, pour votre éclairage en direct de Londres. On va rajouter qu'une minute d'applaudissement a eu lieu avant le coup d'envoi en hommage à José Antonio Reyes, l'ancien joueur d'Arsenal, du Real, mais surtout de l'Atlético et du FC Séville. Et il est mort dans un accident de voiture à l'âge de 35 ans. Il avait notamment remporté 5 Ligues Europa avec les Colchoneros et les Sévillans. Si cette finale européenne a été d'une belle tenue, d'une belle qualité malgré tout, on ne pourra vraiment pas en dire autant de l'autre finale de Ligue des Champions du week-end, le duel retour entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Triste nouvel exemple des défaillances qui ternissent encore trop souvent le football africain. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Christophe.
L'Espérance a conservé son titre dans des circonstances bien étranges, scène surréaliste vraiment hier soir à Rhodes.
Oui, on récapitule, on joue depuis 60 minutes quand cette finale bascule dans la quatrième dimension, le grand guignol comme vous voulez. Le score est de 1-0 pour les espérantistes. Le Wydad égalise, ça fait donc un partout comme au match aller, mais en fait non, l'arbitre Monsieur Gassama refuse le but pour un hors-jeu inexistant. La VAR aurait dû permettre de vérifier, de trancher, aurait dû parce qu'elle était en panne. Ça tombe mal, je vous passe rapidement la suite. Protestation des Marocains, interruption du match pendant presque une heure et demie. Un dialogue s'engage au centre du terrain avec en arbitre entre guillemets Hamad, le président de la CAF. Les joueurs du WAC sont sommés de reprendre le jeu, ce qu'ils refusent. Résultat, l'Espérance est sacrée. En ligne avec nous ce soir pour parler de tout ça, Patrick Juillard, chroniqueur bien connu des habitués de Radio Foot. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Thomas.
Et Anas Yassine, notre correspondant au Maroc. Bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous.
Anas, j'aimerais commencer avec vous pour savoir d'abord comment ont réagi ce matin, aujourd'hui, les Marocains dans la presse et bien sûr dans la rue.
Eh bien, vous l'imaginez, il y a de la frustration, de la colère, pas seulement en raison de ce qui s'est passé hier soir, et vous le disiez à l'instant. À l'aller aussi, le WAC a été lésé par l'arbitrage. Les supporters, une partie de la presse, estiment que le WAC a été privé d'un but valable et d'un pénalty flagrant déjà il y a une semaine lors du match aller. Et puis hier, vous l'avez bien expliqué, c'est pour ça qu'on parle de scandale, de honte, une décision étrange, d'un scénario improbable ou encore un vainqueur sans honneur, voilà pour l'essentiel des réactions.
Patrick, quel que soit le camp, l'équipe que l'on supporte, c'est un fiasco indiscutable pour la CAF, un fiasco particulièrement malvenu à 3 semaines du coup d'envoi de la CAN. En termes d'image, la soirée d'hier est désastreuse.
Oui, désastreuse, d'autant que cette année, les deux finales de Ligue des Champions africaines et européennes tombaient le même week-end. Et donc la comparaison sera d'autant plus cruelle pour l'Afrique et pour la CAF. Là, on a eu un communiqué de la société chargée de la prestation de l'assistance vidéo qui a expliqué qu'une série de contretemps avait empêché de livrer le kit complet à Tunis et que donc cette société ouvrait un peu le parachute pour se couvrir, mais tout ça fait vraiment désordre. Il est incroyable que surtout la CAF n'ait pas communiqué au sujet de la défaillance avant la rencontre, officiellement, pour l'expliquer. Ça aurait permis peut-être d'éviter ce qui s'est passé ensuite sur le terrain. En tout cas, l'impression est effectivement catastrophique et les commentaires sont bien plus nombreux que si la finale était allée à son terme.
Alors, la CAF a communiqué depuis, elle a annoncé la tenue d'un comité exécutif d'urgence mardi prochain pour, je cite, débattre des issues réglementaires de cette rencontre. La Fédération Royale Marocaine de Football a annoncé de son côté ce soir qu'elle saisirait la FIFA et le TAS. Espère-t-on, Anas Yacine, du côté du WAC, une décision, un renversement de situation ?
Ben, il y a beaucoup de, on va dire, beaucoup de solutions envisagées. Il y a certains qui veulent que le match soit rejoué. D'autres, les supporters surtout, vous le savez, il y a les motifs dans cette histoire, veulent que le WAC soit sacré champion, même si l'espérance n'y est pour rien. Ce sont des fautes d'arbitrage qui ont marqué ces doubles confrontations. Et vous le disiez, la fédération a décidé donc de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, et la FIFA. Et le président de la Fédération royale marocaine de football, en tant que troisième vice-président de la CAF, s'est dit prêt à défendre les droits du Wydad lors de la réunion du comité exécutif de la CAF mardi prochain. Tout cela pour espérer, bien entendu, une nouvelle rencontre, peut-être sur un terrain neutre.
Rapidement, Patrick, quelle que soit l'issue de cette réunion de mardi, ça aura forcément des conséquences. Il y a des coupables dans cette histoire et des conséquences donc.
Le premier coupable, c'est sans doute la CAF. La CAF qui a, dès le match aller, en sanctionnant très sévèrement l'arbitre égyptien de la rencontre, alors que ses décisions étaient certes contestables, mais relevées de son interprétation souveraine, a mis une pression inconsidérée sur les arbitres. Et on en est arrivé à la catastrophe du match retour, aggravée par une défaillance technique qui peut certes arriver, mais qui a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc je vois pas en quoi des issues réglementaires peuvent être à l'œuvre dans ce cas-là. Une équipe qui refuse de jouer sur une contestation arbitrale s'expose à une défaite par forfait. Donc je ne vois pas en quoi on peut trouver des issues réglementaires à cette histoire.
On suivra l'issue de ce feuilleton avec tous les deux. Merci beaucoup. Bonne soirée Patrick Juillard et Anas Yacine.
Allez, on reste en Afrique. En Afrique du Sud, il y a Durban précisément où se dispute en ce moment la Coupe de la COSAFA, la compétition regroupant les sélections de la partie australe du continent. D'abord les résultats, Thomas. Deux quarts de finale avaient lieu aujourd'hui.
Et logiquement, les deux premiers qualifiés pour le dernier quart et sont connus seront présents au rendez-vous le Lesotho Tombeur de l'Ouganda après la séance de tir au but et le Zimbabwe, vainqueur 2-0 des Comores. Le Zimbabwe est venu en Afrique du Sud avec un groupe similaire à celui qui disputera dans 3 semaines le match d'ouverture de la CAN contre l'Égypte, avec aussi un entraîneur emblématique, Sunday Chidzambwa, ancien joueur de l'équipe nationale, sélectionneur banni puis revenu en grâce, un homme à la trajectoire singulière qui espère bien finir sa carrière par un coup d'éclat à la CAN. Claire Bargelès.
Casquette vissée sur la tête, Sunday Chidzambwa s'approche du terrain de sa démarche un peu boitillante. Il n'échangera que très peu de mots, laissant le soin à ses adjoints de guider l'entraînement, mais il observe. 15 ans après avoir emmené pour la première fois de leur histoire les guerriers à la CAN, le tacticien zimbabwéen espère cette année sortir des phases de poule.
En 2004, nous étions les petits nouveaux du tournoi. C'était la toute première fois que l'on réussissait à se qualifier pour la CAN. Mais je pense que depuis, nous avons accumulé suffisamment d'expérience pour faire mieux. La plupart de nos joueurs en 2004 évoluaient au Zimbabwe. Mais maintenant, nous avons beaucoup de joueurs basés à l'étranger. Ça peut faire la différence pour nous.
Pour perfectionner leur technique, les Zimbabwéens ont décidé de se servir de la COSAFA Cup comme d'une répétition générale avant la CAN.
D'abord, je veux verrouiller mes buts et ensuite construire l'équipe en partant de l'arrière. Je suis quelqu'un qui aime la discipline. Je veux des joueurs bien disciplinés. Je ne veux pas de problème en camp d'entraînement et jusqu'à présent, tout se passe très bien.
Pendant ces entraînements, l'ambiance est détendue autour de Mofu, le surnom donné à l'entraîneur en lien avec son animal totem, un élan. Le milieu offensif Ovidi Karourou apprécie son style très calme.
Je le connais depuis maintenant 10 ans. C'est un très bon entraîneur. Il donne de bons conseils et il écoute ce que les joueurs ont à dire. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et qui nous crie dessus. Il veut que l'on comprenne. Il ne veut pas se battre contre nous.
Sunday Chizambo avait pourtant disparu du paysage zimbabwéen pendant 5 ans. Il était sous le coup d'une suspension à vie par sa fédération pour une affaire de match truqué en Asie. Une décision en fin de compte annulée.
Je n'étais exclu qu'au Zimbabwe et pas à l'extérieur du pays, donc j'ai continué à entraîner en Afrique du Sud. Je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, je me sens bien et je veux en faire plus pour mon pays. C'est pour cela que l'on veut vraiment tout donner et essayer de dépasser les phases de poule.
À 67 ans, l'entraîneur pense bientôt mettre un terme à sa carrière et place donc beaucoup d'espoir dans cette CAN.
Mon plan, ce serait, je pense, d'entraîner encore pendant les deux prochaines années. Ensuite, je veux me reposer, peut-être faire autre chose dans le foot. En football, il faut être ambitieux. Je veux aller loin avec cette équipe et laisser un bout d'histoire derrière moi pour mon pays. Je vais être honnête avec vous, je rêve de remporter le trophée. C'est ça que je vise en tout cas, oui.
Et le Zimbabwe devra commencer avec un gros défi puisque l'équipe de Sunday Chizambwa affrontera les hôtes égyptiens lors du match d'ouverture. Claire Bargelès, Durban, RFI.
Le grand moment approche. Encore 6 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine. Parmi les nations étrangères déjà arrivées dans l'Hexagone, l'Argentine et la Chine. Les Chinoises, ultime adversaire de la campagne de préparation des Bleus hier à Créteil, près de Paris. Les Françaises l'ont emporté 2-1. A priori, tout semble bien parti pour le Mondial. Quoique, 3 joueuses étaient au repos forcé pour cause de pépins physiques. La dernière en date étant la capitaine Amandine Henry. Et ça, c'est embêtant, Éric Chorin.
Et 1, 2 et 3, Amandine Henry a rejoint Eugénie Le Sommer et Amel Majri à l'infirmerie et loupé ce qui devait être, face aux Chinoises, la répétition générale d'un mondial à la maison. Mais si les problèmes musculaires des deux premières étaient connus depuis plusieurs jours, l'absence de la capitaine tricolore était une totale surprise, y compris pour la sélectionneur des Bleus, Corinne Diacre.
Je vous avoue que je m'en serais bien passée ce matin. Elle va bien, elle va bien, elle va mieux. Elle s'est tout simplement bloquée le dos ce matin au réveil. Donc, on n'a pas pris de risque. De toute façon, vu comment elle marche déjà, je pense que ça aurait été compliqué pour elle de courir ce soir. Mais ça va vite rentrer dans l'ordre.
Mais si cela ne rentrait pas dans l'ordre pour l'une ou l'autre des 3 blessés, Le Sommer, la meilleure buteuse des Bleus, Majri, celle qui compose avec elle un couloir qui a longtemps fait pencher l'équipe à gauche. Non, je ne parle pas de politique. Ou Henri, leur capitaine à toutes et indispensable relais au milieu de terrain, Corinne Diacre est bien obligée de chercher des solutions de remplacement. D'où les titularisations à gauche face à la Chine de 2 joueuses plus habituées au couloir droit. F. Périssé derrière et Kadi Diatou Diani devant. Diani qui a marqué le 2e but des Bleus à l'heure de jeu après l'ouverture du score de Valérie Gauvin à la demi-heure. Un but que l'attaquante parisienne est allée chercher toute seule alors que les Chinoises venaient d'égaliser. C'est le 6e en équipe de France depuis le début de l'année 2019 de celle que l'on surnomme Kadi.
C'est Gridjambok qui met le ballon. J'élimine, je crois, une adversaire. Je suis accrochée, mais j'arrive à m'en sortir. Et ensuite, je crois que je réélimine une adversaire et je suis devant les cages et je frappe.
Et les Bleus l'emportent sans effacer totalement l'ombre d'une fin de saison difficile pour les Lyonnaises, championnes d'Europe, alors que la Coupe du Monde n'a pas commencé. Mais quand on suggère à Corinne Diacre qu'être privée de 3 de ses meilleures joueuses, Henry, Majri, Le Sommer, pour une répétition générale, ce n'est vraiment pas l'idéal au moment d'attaquer une Coupe du Monde.
Bah, si, regardez, on est sur 2 matchs, 2 victoires. Je travaillais qu'un groupe. À un moment donné, justement, on m'avait dit, si une joueuse n'est pas là, souvent on pensait à Le Sommer quand elle a été blessée contre le Brésil. On a battu le Brésil. D'autres n'étaient pas là contre d'autres équipes. On a fait des matchs intéressants. Et ce soir, malgré l'absence des 3 joueuses que vous venez de nommer, on a encore gagné. Donc c'est mon projet, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec le staff. Il ne faut surtout pas que l'équipe de France tourne autour d'une joueuse. Et on l'a vu ce soir, on avait 3 sur le côté, heureusement. Voilà, l'équipe de France, c'est une équipe. On l'a prouvé ce soir.
Une équipe qui ouvrira son mondial face à la Corée du Sud au Parc des Princes vendredi prochain.
Et ce sera à 19h temps universel et à vivre en intégralité sur RFI. Le constat n'est pas tout à fait nouveau, mais cette édition 2019 de Roland-Garros l'a rappelé, il n'y a pas vraiment de patronne incontestée du tennis féminin. Et si une joueuse est en grande forme sur les tournois du Grand Chelem, eh bien la terre battue parisienne ne lui réussit là, beaucoup moins. La preuve, à l'occasion de cette 7e journée, où la numéro 1 mondiale, Naomi Osaka et Serena Williams, ex-numéro 1, sont tombées toutes les deux dès le 3e tour. Éric Mamrud, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde.
Serena Williams qui était sortie sans ménagement en début de soirée par sa jeune compatriote américaine Sophia Kenin.
6-2, 7-5 pour la 35e mondiale. Sofia Kenin, née à Moscou il y a un peu plus de 20 ans, victorieuse en janvier de son premier tournoi à Hobart. L'américaine a joué sans complexe contre son aînée, contre la légende, de belles frappes au service, du fond du court. En face, Serena Williams a vite été dépassée, la joueuse de 37 ans coupable de 34 fautes directes. Elle était lente aujourd'hui, comme d'ailleurs depuis le début du tournoi. La faute à une blessure au genou contractée à la mi-mars, un pépin qui a complètement tronqué sa préparation, comme nous l'explique son entraîneur, pas vraiment surpris par cette défaite, Patrick Mouratoglou.
Je la voyais pas aller très loin dans le tournoi parce que elle a pas pu se préparer correctement. Elle a été blessée à Miami et la blessure a été extrêmement longue à soigner. Donc le temps de préparation a été très court. Au départ, il y avait beaucoup de douleurs en plus. Donc non seulement elle a pas eu assez de temps pour se préparer, mais elle a même pas pu se préparer correctement. Donc son niveau de jeu est très insuffisant. C'est beaucoup lié à la qualité de son déplacement. Quand on ne peut pas bouger comme on doit le faire, on ne peut pas avoir un niveau de jeu correct, pas suffisant en tout cas. C'est triste de l'avoir perdre si tôt, mais de toute façon, difficile d'imaginer aller loin compte tenu de l'absence de préparation qu'elle a eue. Bon, il va falloir qu'elle se soigne et qu'elle revienne en étant prête, c'est tout. Je suis convaincu que Serena, préparée comme elle doit l'être pour gagner un tournoi de Grand Chelem, elle est parfaitement capable de le faire. Malheureusement pour elle, elle n'a pas pu le faire depuis un moment.
Oui, à un moment, ça fait près de 2 ans et demi qu'elle n'a plus remporté un tournoi du Grand Chelem. Depuis, elle a eu un bébé et les blessures aussi se sont accumulées. À voir maintenant si elle pourra un jour retrouver tous les moyens physiques nécessaires pour décrocher un 24e trophée majeur. Elle égalerait alors le mythique record de l'Australienne Margaret Court. Un peu plus tôt, Naomi Osaka avait-elle aussi donc mordu la poussière, défaite 6-4, 6-2 face à la Tchèque 42e mondiale Katerina Siniakova. Trop de pression pour la japonaise victorieuse des deux derniers tournois du Grand Chelem et depuis numéro 1 au classement. Trop de pression, c'est ce qu'elle a déclaré à la presse par la suite. Résultat après le forfait de Petra Kvitova, l'abandon de Kiki Bertens, les éliminations de Pliskova, Svitolina et Kerber notamment. Il n'y a plus que 3 top 10 encore en lice au stade des 8e de finale. Alep, Stevens et Ashley Barty, l'Australienne.
Et puis, il n'y a plus de Françaises. Toutes ont été éliminées rapidement cette semaine.
Elles étaient 11 au départ, 0 au troisième tour. Parmi elles, 7 avaient été invitées, faute d'un classement suffisant pour entrer dans le tableau riche de 128 joueuses. Les déceptions se nomment en tête. Caroline Garcia a battu au deuxième tour par la 117e au classement. Et à un degré moindre, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Pauline Parmentier et la jeune Fiona Ferro. Aucune Française au troisième tour à Roland-Garros, une première depuis 33 ans. Résultat dur mais logique selon le DTN du tennis français, Pierre Chéret.
J'ai pas envie de dire que c'est la crise, c'est un moment difficile, bien sûr, mais on s'y attendait. Pendant des années, on a eu que 4 joueuses dans le tableau, on n'a qu'une joueuse qui est tête de série. Donc aujourd'hui, on a un manque de densité, c'est évident. On travaille beaucoup chez les jeunes pour créer de la densité, chose qu'on n'a plus. À un moment donné, on a arrêté de former des joueuses. Je crois qu'il y a 15 jours, on avait 11 joueuses dans le top 100 ITF junior. On est sur une génération Paris 2024. On est en reconstruction, tout simplement. On reconstruit notre tennis féminin avec des jeunes joueuses qui vont arriver, justement, on espère, le plus rapidement possible dans les qualifs de Grand Chelem afin d'apprendre leur métier. On voit les nations qui fonctionnent bien sur le tennis féminin. À un moment donné, il y a une grosse densité et de cette densité sort des bonnes joueuses.
On va donc attendre maintenant la maturation des meilleurs juniors en tête Clara Burel et Diane Paris, cette dernière qui a passé un tour ici à Roland-Garros à seulement 16 ans.
On passe au tableau masculin. L'événement de cette 7e journée, Eric, c'était le duel fratricide entre Gaël Monfils et le tout jeune Antoine Wang.
Cette fois, pas de surprise, le plus expérimenté l'a emporté largement 6-3, 6-2, 6-3 pour Gaël Monfils, sans panache, mais tout en contrôle face au 146e mondial. Tout était trop grand pour Antoine Wang aujourd'hui qui jouait son tout premier tournoi du Grand Chelem. Le central, le public, la chaleur intense aujourd'hui et son adversaire bien sûr en pleine forme. Il a même fait un léger malaise le Varois pendant le match. À l'arrivée néanmoins, une superbe expérience avec un troisième tour inespéré, des victoires sur 2 top 60. Écoutez Antoine Wang, toujours au micro de Frédéric Suto.
Juste après le match, j'étais un peu déçu parce que j'étais confronté un peu à mes difficultés. J'ai pas trop trouvé de solution. Gaël qui défend très bien, qui met beaucoup de volume, il a su me bloquer entre guillemets dans mon jeu. Mais voilà, avec que du recul, je me dis que c'était quand même une super belle semaine et voilà, j'ai vécu des choses incroyables aussi ici. Le public a été fantastique toute la semaine et je voulais vraiment les remercier. Vu d'où je viens, etc., c'est déjà un super bon résultat. Ça me permet de prendre confiance aussi sur ce que je peux faire. C'est beaucoup de travail aussi pour en arriver là, d'avoir su chercher des victoires qui ont été difficiles contre Dumour et Verdasco. Et après, bien me reposer et bien repartir la tête claire sur le gazon, qui serait un objectif aussi.
Trois victoires en 3-7 donc pour Gaël Monfils, le parcours parfait pour l'instant pour le numéro 1 français, avant de défier Dominic Thiem en 8e de finale lundi, l'Autrichien finaliste sortant ici à Roland-Garros.
Gaël Monfils, dernier français en 2e semaine avec Benoît Paire.
Benoît Paire en 8e de finale à Paris, c'est une première mais pas une surprise puisque l'Avignonnais a remporté deux tournois sur terre battue cette saison, le dernier à Lyon samedi dernier. À 30 ans, Benoît Paire, connu longtemps pour être l'enfant terrible du tennis français avec ses grandes colères, ses raquettes cassées, semble désormais assagi, plus mûr, apaisé par l'amour que lui manifeste maintenant le public français. Conséquence, une première semaine qui le rend heureux et très fier. Benoît Paire.
Oui, je suis fier. Je suis fier parce que je sais que je suis pas comme tout le monde. Je sais que je m'entraîne pas aussi dur que tout le monde le fait. Mais voilà, j'aime aussi profiter de la vie. Je suis très content parce que là, ici, je peux tout avoir. Je profite énormément sur le court parce que j'aime le tennis. En même temps, j'ai mes amis qui sont là, qui me soutiennent, avec qui je passe vraiment des bons moments. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que j'arrive justement à partager avec tout le monde et qu'on se retrouve tous les soirs et qu'on est content et qu'on va boire un verre et que voilà, c'est, pour moi, c'est ça la vie et c'est ce que j'aime.
Ce côté rapport avec le public français, c'est une donnée importante, c'est pas juste anecdotique, quoi. Ça compte vraiment pour vous, quoi, ce lien qu'il peut y avoir.
Ça compte beaucoup, on sait très bien que je suis très sensible et très émotif, donc quand ça se passe pas très bien sur le court avec le public, forcément, même si je dis que je m'en fous et que je suis dans mon match, ça me touche forcément, je l'entends, comme les critiques qu'il peut y avoir après dans la presse quand je fais un mauvais match ou que je m'énerve. C'est vrai que l'accueil que j'avais eu sur le premier tour, sur le 14, pour moi ça restera quelque chose d'exceptionnel et quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre, parce que quand on arrive sur le court et qu'il y a une Marseillaise, qu'il y a tout ça, quand on sent qu'on vient de gagner un tournoi et qu'on arrive et qu'on est attendu et que le public nous pousse, ben forcément on est fiers et puis on a envie de leur donner encore plus que ce qu'on pourrait donner.
Benoît Paire qui va tenter de poursuivre sa belle aventure demain face à lui, le japonais Kei Nishikori, 7e mondial. Sinon, pas de surprise aujourd'hui côté messieurs, les Djokovic, Zverev, Tsitsipas, Del Potro, Khachanov et Fonini se sont tous qualifiés. Résultat, les 10 premiers mondiaux sont en 2e semaine. C'est la 3e fois seulement que cela arrive depuis 1968 et la création de l'ère open.
Merci beaucoup Eric Mamreut en ligne de Roland-Garros. On termine ce mondial sport avec du cyclisme. Antoine, le 16e tour du Cameroun est parti ce matin.
Première étape remportée au sprint à Abongbang par le néerlandais Stéphane De Backer, juste devant le vainqueur sortant Bonaventure Uwizeyimana. Uwizeyimana, un Rwandais qui brille au Cameroun. Cette année pourrait bien être celle du doublé, en tout cas. Il est armé pour son portrait, signé Joël Wadem.
Bonaventure Uwizeyimana est l'une des valeurs sûres du cyclisme rwandais. À 26 ans, ce coureur, vainqueur du Tour du Cameroun en 2018, a également remporté une étape du Tour du Rwanda et une autre à la Tropicale, à Missabongo. Félix Sempoma, le directeur sportif de l'équipe rwandaise, revient sur le parcours de ce grimpeur endurant et persévérant.
Uwizeyimana a commencé le cyclisme il y a 9 ans dans un club de Rubavu, Benediction Club. Il a gagné beaucoup de compétitions nationales, c'est-à-dire des compétitions organisées par la Fédération rwandaise de cyclisme. Il a fait beaucoup de progrès. Il y a eu une équipe africaine, mais continentale, qui a recruté. Il a été dans une équipe des Mission Data pendant 2 ans, et puis il a retourné au Rwanda.
À la suite de sa 2e place à la première étape du Tour du Cameroun 2019, Damien Tekou, le directeur sportif de l'équipe A du Cameroun, pense que Bonaventure peut une fois de plus remporter cette compétition.
Bonaventure pas favori, c'est un bon coureur. Je me rappelle encore au Gabon, il y a quelques années, il avait remporté une belle étape devant l'équipe Europe Car. C'est un coureur vraiment qui a beaucoup d'expérience et je pense qu'il vient pour défendre ce titre qu'il a remporté. Mais nous les Camerounais, on s'est préparé et on espère vraiment qu'on pourra plus se faire battre par Bonaventure comme l'année passée.
L'Ivoirien Cissé Issiaka, vainqueur du Tour de Côte d'Ivoire en 2018, a participé à plusieurs compétitions avec Bonaventure Uwizeyimana. Il trouve le Rwandais plutôt affable.
Il est gentil, on discute des fois, même dans le peloton, même cette année au Tour du Gabon, tout le temps quand on se retrouve dans le groupe, on échange, on parle d'autres choses, pas seulement que le vélo.
Après une belle première étape, Bonaventure Uwizeyimana est loin d'avoir dit son dernier mot dans cette 16e édition du Tour du Cameroun qui s'annonce bien relevé. Joël Wadem à Bonban RFI.
Et donc au général, Backer est en jaune devant Uwizeyimana. Le Camerounais Robert Dacier-Fonzing est quatrième demain. Deuxième étape, 152 km entre Yaoundé et Nangamboko.
Merci beaucoup Thomas, et pas Antoine. Mondial Sport, c'est terminé pour ce soir. Merci à Fabrice Violet et Jean-Philippe Thury pour la réalisation. Dans un instant, 24h en France. Adrien Delgrange, bonne soirée. Thank you.